Amen. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer, enfin, ou du moins, partir d'une expression, une façon de parler que j'ai déjà entendu dire, où j'ai déjà entendu certaines personnes dire que aimer, c'est s'inquiéter. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça a l'air partagé, hein. je me demandais, quand j'ai entendu cette façon de parler, est-ce que c'était une citation qui venait de quelque part ? Bon, j'ai cherché, j'ai trouvé des trucs qui ressemblaient en remontant jusqu'à Thomas d'Aquin, ou alors des trucs plus récents dans les chansons de Dolly Parton, ou n'importe... Enfin, plein de trucs différents, même dans des livres du début du XXe siècle. Et puis j'ai trouvé un post là, sur un blog, où il y avait juste ce prédicat, on va dire, ça commençait à partir de ça, et ça commençait avec ces mots-là: aimer, c'est s'inquiéter activement pour l'autre, sans inquiétude sincère et concrète, il n'y a pas d'amour. J'ai vu ça, j'avais plus de questions après qu'avant d'avoir lu cette phrase-là, parce que je me suis dit, mais vraiment, on peut pas aimer quelqu'un sans inquiétude. Si je m'inquiète pas, c'est que mon amour, il n'est pas suffisamment sincère. Et c'est vrai que déjà, suivant les définitions qu'on met derrière chacun des termes, ça peut influencer un peu comment on comprend ces deux petites phrases-là. Et je me suis dit, j'aimerais bien étudier avec vous ce rapport-là, entre l'amour et l'inquiétude, et voir surtout, au-delà de ce que le monde pense de la façon dont on est censé aimer, qu'est-ce que la Bible nous dit de la façon dont on est aimé, dont on doit aimer. Et donc la première chose qui me venait à l'esprit par rapport à ça, c'est si aimer, c'est s'inquiéter, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter ? C'est quoi qui risque de susciter une crainte ou une inquiétude dans mon cœur quand j'aime quelqu'un, quand j'aime quelque chose ? Alors il y a probablement on pourrait trouver plein de raisons à ça, plein d'explications suivant les personnes. Chacun trouverait un peu ce qu'il veut. Moi, j'en ai noté deux que j'avais envie de vous partager. La première inquiétude qu'il y a, c'est souvent la crainte de perdre ce qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on s'y attache. Et du coup, on a cette crainte que ça puisse disparaître. D'ailleurs, il y a un très célèbre maître Jedi hein, qui expliquait ça à Luke Skywalker. Tu me montres la diapo qu'il y a derrière normalement. Hein ? Voilà, la peur de la perte, c'est un chemin vers le côté obscur. Parce que quand on s'attache, forcément, on craint de perdre ce à quoi on est attaché. En soi, c'est pas si logique que ça. Hein. Ça nous semble assez raisonnable de se dire que quand on aime quelque chose, on est attaché à quelque chose ou quelqu'un, perdre ça, c'est une perspective qui nous plaît pas trop. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est tout le temps stressé de se dire « je vais perdre ceux à qui je suis attaché ». Ça dépend beaucoup des caractères, aussi des situations. Si vous prenez un jeune couple là qui vit sur leur petit nuage, ils ne s'inquiètent pas trop de ça. Par contre, vous prenez quelqu'un qui est à l'hôpital, au chevet de son conjoint, de sa conjointe, qui vit ses derniers moments, ils ne le vivent pas de la même manière. Et puis même parfois, il n'y a même pas besoin de ces circonstances-là pour que certains d'entre nous s'inquiètent de perdre ceux auxquels ils sont attachés. Parfois, il y a des traumatismes derrière nous, il y a la peur de l'abandon, il y a des problèmes de confiance en soi, de se dire « mais est-ce qu'elle va rester avec moi ? Est-ce qu'elle va pas se lasser de moi ? Est-ce qu'il ne va pas à un moment trouver mieux ?» Il y a toutes sortes de questionnements comme ça qui peuvent nous arriver et qui peuvent créer cette crainte dans nos cœurs. La seconde raison que j'ai trouvée qu'il y a de s'inquiéter, c'est associé à une envie de chercher le bien-être de l'autre. Mais cette envie, parfois, elle peut devenir presque maladive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça. Parfois, souvent, on met ça sur le dos des mamans. Après, je ne sais pas si c'est plus une caractéristique féminine que masculine, mais qu'une maman, elle est toujours en train de s'inquiéter pour ses enfants. Non, bon, pas chez nous, ce n'est pas grave. Mais à l'extérieur, on trouve des gens, ils pensent ça. Ou parfois, vous attendez que votre mari rentre à la maison, puis il n'est toujours pas arrivé au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il n'a pas eu un accident ? Enfin, ça semble humain quand même que quand on est attaché à quelqu'un, on veut quand même leur bien-être, leur confort. et qu'on soit tenté de s'inquiéter de que rien ne leur arrive de mal, qu'on essaie on veuille à chaque fois le meilleur pour eux. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à nos enfants, c'est comme ça qu'on a tendance à réfléchir, se dire, mais je veux leur éviter tout danger, je veux leur éviter les problèmes dans la vie, je veux qu'il y ait le meilleur pour eux. Et finalement, ça nourrit une certaine forme d'inquiétude en nous. En soi, ça aussi, ça a l'air tout à fait humain comme façon de voir les choses. Donc, est-ce que aimer vraiment, c'est vraiment devoir s'inquiéter? Regardons ce que dit la Bible un peu sur le sujet, parce que là, je vous ai cité quand même des grandes références, mais qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Donc, on va revenir plutôt quand même à la parole de Dieu. C'est quand même une source d'information un peu plus fiable, on va dire. Et le premier texte qui vient à l'esprit quand on parle d'inquiétude, vous le connaissez par cœur. Ah, il y a un petit problème là, l'image s'est mise sur la fin du verset, c'est Philippiens 4, verset 6, enfin c'est le début du verset 6 surtout que je vous ai cité là. Ne vous inquiétez de rien. Bon là, c'est clair, l'inquiétude ça ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Mais il sait à quel point ça fait partie du nôtre. Jésus lui-même, il savait très bien combien les gens qui étaient autour de lui étaient souvent accaparés par les inquiétudes et étaient souvent enclins à se préoccuper de ce qui allait leur arriver, comment est-ce qu'on allait pouvoir se nourrir demain, est-ce qu'on va avoir assez d'argent, est-ce qu'on va avoir un toit. Et il en a fait un point un peu central à l'intérieur du sermon sur la montagne. Denis, s'il te plaît. Merci. Et on voit dans Matthieu chapitre 6, au verset 25, Jésus qui s'adresse à toute la foule qui est en train de l'écouter, et il leur dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps. Enfin, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps que le vêtement ?» Et il continue un peu plus loin, au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » À chaque jour suffit sa peine. Jésus, là, il a bien insisté auprès de toutes ces personnes qu'il avait autour de lui. Là. L'inquiétude, il faut la mettre au placard, il n'y en a pas besoin. Pourquoi ? Parce que Dieu s'occupe de vous. Regardez les oiseaux, regardez les plantes. Il sait déjà bien s'en occuper. Donc, vous-même, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des choses. Parce qu'en fait, l'inquiétude, qu'est-ce que ça manifeste ? Qu'est-ce que ça montre ? En fait, c'est l'expression de notre incapacité à contrôler les choses, à concrétiser nos désirs avec nos propres forces. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ? Parce qu'on est un peu dans une sorte de lutte avec la réalité où on se rend bien compte qu'on contrôle pas les choses, on ne peut pas garantir ce qui va se passer, et en même temps, on a envie toujours d'essayer de garder autant que possible la main sur nos circonstances, sur tout ce qu'on traverse. Et l'inquiétude, c'est un peu la manifestation de cette lutte à l'intérieur de nous entre cette envie de contrôler les choses et cette réalisation que souvent, c'est hors de notre portée, hors de notre pouvoir. On essaye d'orienter nos circonstances, on essaye de diriger nos pas, notre vie, en faisant certains choix, en faisant certaines actions. Mais régulièrement, la vie, elle nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Et c'est une réaction normale, naturelle, du coup, de tomber un petit peu dans cette inquiétude. Mais c'est aussi un cercle vicieux. Si on remonte juste quelques versets avant, au verset 27, toujours dans Matthieu chapitre 6, Jésus, il leur dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Pourtant, lorsque la vie et les circonstances nous rappellent que nos capacités là, elles sont limitées, qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, que régulièrement on est bloqué par la vie, l'inquiétude, c'est juste une des façons de répondre à ce constat. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont tomber dans d'autres façons de réagir. L'inquiétude, c'est parce que je vais essayer de reprendre le contrôle, mais certaines personnes, elles vont tomber plutôt dans la résignation, dans la dépression, de se dire « je ne peux plus rien faire, je suis au bout », et puis elles sombrent dans ce sentiment-là. D'autres personnes, elles vont essayer d'ignorer ça, de tirer un trait dessus, planquer tous leurs problèmes derrière un rideau pour pas avoir à s'en inquiéter, mais sans régler non plus le problème. Mais ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est que même si on constate que nos capacités, que notre pouvoir est très très limité, l'inquiétude, c'est pas la bonne réponse à y apporter. L'inquiétude, elle naît de cette crainte là que les choses nous échappent. Et plus on la laisse nous envahir, cette crainte, plus ce sentiment il va grandir. Cette crainte là va nourrir encore plus de crainte jusqu'au moment où ça devient vraiment une angoisse assez profonde à l'intérieur de nous, qui fait que on est tout le temps inquiet, tout le temps préoccupé de ce qui va nous arriver, de ce qui va arriver à ceux qu'on aime. Et pourtant, si je reviens à ma question de départ, aimer c'est s'inquiéter, la Bible ne nous décourage pas d'aimer. Au contraire, elle nous encourage régulièrement à nous aimer les uns les autres. Vous vous rappelez de ces paroles de Jésus qui répondait à la question « C'est quoi les plus grands commandements ?» Et dans Matthieu chapitre 22, dans les versets 37 à 40, il répond quoi ? Il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Le premier commandement est le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc si d'un côté la Bible nous dit qu'on doit aimer, et en même temps elle nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter, alors, de deux choses l'une. Soit la Bible se trompe, parce que ce n'est pas possible de faire les deux à la fois. Soit c'est que la façon de voir l'amour dans la Bible ne correspond pas à cette idée que je vous ai donnée en introduction. À votre avis, c'est quoi le plus probable ? Ah, quand même, ça va. La question ne se pose pas. Effectivement, on est d'accord que l'idée que la Bible se tromperait là-dessus, je pense que celle-là, on ne l'envisage même pas. Mais ça veut dire que si la Bible nous demande à la fois d'aimer et de ne pas nous inquiéter, c'est qu'il y a un moyen de le faire. D'ailleurs, on sait que Dieu est amour, et est-ce que Dieu est inquiet ? Bon, j'ai pas vu de texte qui disait que Dieu parfois s'inquiétait de ce qui allait se passer. Non, au contraire. Il nous a toujours dit que Dieu sait ce qu'il va faire, sait ce qui va se passer. Alors vous me direz, c'est pas compliqué pour lui, il a tout pouvoir, il fait tout ce qu'il veut, donc il n'a pas besoin de s'inquiéter. Et nous, à notre niveau, on n'a pas le même luxe. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin de s'inquiéter quand il sait ce qui va se passer, quand il sait ce que lui va faire, et que quoi qu'il ait décidé de faire, il pourra le faire. Nous, à l'inverse, on n'a pas cette capacité, on n'a pas ce pouvoir. Donc c'est peut-être pour ça que nous, on a envie de s'inquiéter alors que Dieu n'a pas ce besoin du tout. Mais la Bible pourtant nous dit de ne pas nous inquiéter non plus. Donc on doit pouvoir arriver à aimer sans crainte. Alors comment faire ça ? Sur les deux types de crainte, par exemple, que je vous ai exprimées plus tôt, on trouve des conseils dans la Bible qui répondent à ce genre de crainte-là. Lorsque ce qu'on craint, c'est de perdre ce qu'on aime, ou ce CE ou CEUX, hein, les deux marches, la réponse de Dieu, elle est quand même beaucoup plus intéressante que celle de Maître Yoda. Parce que l'amour que nous, on est appelé à vivre, c'est un amour qui n'attend rien en retour. Lorsqu'on craint de perdre quelque chose, c'est pas tellement notre amour qui se manifeste, c'est notre désir de garder cette chose. En fait, ça montre que cet amour-là qu'on a, il attend quand même quelque chose en retour. On aime quelqu'un parce que on veut profiter du temps avec cette personne, on veut profiter de la relation avec la personne, et que aussi bien on veut son bien à elle, mais on veut aussi notre bien à nous au travers de cette relation. Mais l'amour tel que Dieu le conçoit, il ne se préoccupe pas de ça. Dieu, il aime sans rien attendre en retour. Et lorsque Dieu lui-même nous exhorte à aimer, il conditionne jamais cet amour à quoi que ce soit. On ne doit jamais aimer avec des conditions en espérant ne serait-ce que être aimé en retour. On ne peut rien exiger de ce qu'on aime, et c'est la démonstration même de l'amour que Dieu nous a prouvé. Dans 1 Jean au chapitre 4, dans les versets 9 à 10, Jean nous donne cette démonstration en disant « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » L'amour de Dieu, ce n'est pas le fait que on s'est entendu, tu nous aimes et nous aussi on t'aime en retour, ça passe bien entre nous. Non, Dieu nous a aimés avant même qu'on existe. Il nous a aimés avant même qu'on choisisse de l'aimer. Il nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs et loin de lui. Lorsque Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils pour nous. Et encore plus que ça, il a envoyé son Fils en sachant que beaucoup d'entre nous allions rejeter ce sacrifice. Combien de personnes autour de nous ne veulent pas entendre parler du sacrifice de Jésus pour eux? Pourtant, Dieu les a aimés, il a envoyé son Fils pour eux aussi. Et même si eux le rejettent, Dieu les a aimés quand même. C'est cet exemple-là de l'amour divin qui se donne pour nous, alors que nous, on n'avait rien fait pour le mériter. Et bien au contraire, c'est cet exemple-là que Dieu veut que nous suivions. Et c'est sur cette base-là aussi que Jésus donne un conseil à tous ceux qui le questionnaient dans Luc au chapitre 6. Si on lit les versets 32 à 36, il encourage à aimer d'une manière qui est complètement différente de celle qu'on trouve dans le monde. Parce qu'il dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on ? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui ne veulent pas de vous. Aimez ceux qui rejettent votre amour. On voit bien que là, il y a une forme d'amour qui dépasse ce désir-là d'aimer pour pouvoir avoir simplement une relation avec la personne. On doit aimer au-delà de ça. On doit aimer même s'il n'y a aucune chance qu'une relation s'installe entre nous et la personne qu'on aime. L'amour, il doit être désintéressé par nature. D'ailleurs, je vous recommande de relire encore 1 Corinthiens 13. C'était tellement évident, je ne l'ai pas inclus, mais vous voyez très bien que quand on parle d'amour, on peut y retourner. Et là, on a une description qui est vraiment, pour ne pas dire exhaustive, qui est quand même déjà très parlante, très complète de ce que le véritable amour doit représenter. L'amour, dans ce contexte-là, il est libéré de la crainte de perdre quoi que ce soit, parce que finalement, on se rend compte que ce qu'on aime ne nous appartient pas. D'ailleurs, il y a un grand philosophe là au XXe siècle qui disait ça, « Si tu aimes quelqu'un, rends-le libre. » Tu peux mettre la diapo, hein, Caroline. Vous connaissez peut-être. Hein. Ce que j'aime, ça ne m'appartient pas. Et si ça ne m'appartient pas, je ne peux pas le perdre, en fait. Mais j'aime quand même comme Dieu m'a aimé. Parce que Dieu m'a aimé sans mérite de ma part et sans garantie que j'allais l'aimer en retour. Ensuite, la deuxième inquiétude que j'avais évoquée avec vous, celle de qu'il arrive quelque chose à ceux qu'on aime, ou l'inquiétude de se dire « mais je veux le meilleur pour eux » et puis « et si les choses tournaient mal ?» Là aussi, la parole de Dieu a la réponse. La raison pour laquelle on s'inquiète pour les autres, c'est la même raison que l'inquiétude en général, que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait qu'on est incapable de garantir à 100% le bien-être des personnes qu'on aime. C'est ça qui stresse des parents, de se dire « mais mes enfants, mais s'ils font ça, et si je ne suis pas avec eux, comment est-ce que, qui c'est qui va les protéger ? Si je si je ne leur évite pas certains dangers, comment est-ce qu'ils vont, là, eux, passer à côté ? Et on est bien confronté au fait que ben, notre capacité à protéger ce qu'on aime, elle est très limitée, et que jamais on pourra garantir à 100% que ce qu'on aime, rien ne leur arrivera de mal, qu'on va pouvoir leur apporter tout le temps le meilleur, et même qu'on sera même nous-mêmes toujours là pour eux. Rien que ça, c'est pas garanti. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous encourage, nous est chargé sur lui de ces fardeaux-là, non seulement nos propres fardeaux, mais aussi ceux des autres. Dans l'épître aux Philippiens que j'ai cité tout à l'heure, si on lit un peu plus que juste les quelques premiers mots là que je vous ai cités, il nous était dit « Ne vous inquiétez de rien », mais vous voyez qu'il y a une petite conjonction de coordination, ça continue derrière. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs, votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Plutôt que de s'inquiéter, Paul nous encourage à adresser à Dieu des prières et des supplications pour toutes ces choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est quoi la conséquence ? La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. C'est complètement l'opposé de l'inquiétude, ça. Lorsqu'on est inquiet, on n'est pas dans la paix. Au contraire. Lorsqu'on est inquiet, notre cœur, il est torturé là, par toutes sortes de tiraillements. Et là, Paul nous dit que si vous déposez vos inquiétudes aux pieds de Dieu, au travers de la prière, en le suppliant, ben, Dieu vous déchargera cette inquiétude. Dieu va se charger de ces inquiétudes-là et à la place, il va mettre sa paix. La réponse de Dieu à notre prière, on le répète suffisamment régulièrement, ce n'est pas forcément qu'il va exaucer notre prière, mais c'est qu'il va nous délivrer de l'inquiétude par rapport à ce pour quoi on a prié. Oui, ce que Dieu veut, c'est que nous lui apportions nos inquiétudes et lui, il apaisera nos cœurs parce que lui seul est capable d'assurer la meilleure issue possible à la situation qu'on lui a présentée. Nous-mêmes, lorsqu'on prie, on est tenté de demander une certaine solution à notre problème, mais en fait, ce qu'on connaît de la solution, est peut-être du problème, est très limité et peut-être que même la solution que nous, on espère, n'est pas la bonne. Dieu seul sait quelle est la meilleure solution à apporter, la meilleure réponse à apporter à un problème, à une épreuve, et c'est pour ça qu'il veut qu'on se décharge et qu'on lui remette cette responsabilité-là. C'est pour ça que si je reviens aussi dans Matthieu au chapitre 6, pareil, j'avais juste lu quelques petits versets rapidement, là, au milieu de ce sermon sur la montagne, mais si on lit un peu plus large, à partir du verset 25, voilà ce que Jésus disait, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. » La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Et cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce texte, on voit que Jésus dit que à l'inquiétude, Dieu répond par la confiance. Non pas la confiance en nous-mêmes, la confiance en nos propres forces, en nos capacités, mais la confiance en lui. Aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un. Et on peut y contribuer, bien sûr, lorsqu'on aime, et dans la mesure où on est capable de le faire, il faut qu'on agisse pour le bien de la personne. Notre amour, il doit nous pousser à agir, à prendre certaines décisions, à poser certaines actions. Mais il reste quand même des limites à ce qu'on va pouvoir faire. Et lorsqu'on atteint ces limites, Mais c'est là que s'arrête notre responsabilité et que commence celle de Dieu. Parce que c'est lorsqu'on dépasse nos propres capacités qu'on va devoir déposer tout ça au pied de Dieu. Je disais, en tant que parent, quand on s'inquiète pour nos enfants, en particulier quand ils ne sont pas auprès de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux lorsqu'ils sont loin de nous ? On peut les apporter au pied de la croix, on peut les apporter à Dieu et lui demander de prendre soin d'eux pour nous. Paul lui-même, qui nous dit « ne vous inquiétez de rien », ça ne l'empêchait pas de se soucier des gens qu'il aimait, de se soucier des églises. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 28, il dit « sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai pour toutes les églises ». Mais lorsqu'il dit qu'il est assailli par le souci de toutes les églises, ça ne veut pas dire qu'il s'inquiète pour elles. Au contraire, lui, il avait très bien compris, puisqu'il nous l'explique dans l'Épître aux Philippiens, que ce souci-là, c'est une préoccupation, mais pas inquiète, pas dans la crainte. C'est une préoccupation qui le pousse à agir pour ces églises en prêchant, en leur envoyant des lettres, mais aussi en priant pour elles. Dans Colossiens, au chapitre 1, au verset 9, il leur dit dans la lettre qu'il envoie à ses Colossiens, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Nous cessons de prier pour vous. Dieu va s'occuper de vous. Moi, je suis loin, tout ce que je peux faire, c'est vous envoyer cette lettre, mais je sais que lorsque je prie pour vous, Dieu répond. Aux Thessaloniciens, il leur dit, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, et au verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Continuellement, Paul remercie Dieu pour ce qu'il fait pour chacune des églises qu'il a implantées. Et il continue de les apporter à Dieu pour que Dieu continue de les faire grandir, de les faire croître dans la connaissance, de les faire croître avec lui. Donc le souci que Paul a pour les églises, ce n'est pas une inquiétude maladive de se dire « Mais est-ce qu'ils se débrouillent bien sans moi ? Est-ce que j'ai laissé les bons anciens dans l'église, est-ce que les prédicateurs que j'ai instaurés, ils ne vont pas dériver et faire n'importe quoi ? » Non, lui, il a fait ce qu'il avait à faire tant qu'il était présent avec eux, et ensuite, il prie pour toutes ces églises, il prie pour toutes ces personnes auxquelles il tient. Et il sait que Dieu entend sa prière et y répond. En fait, aimer, c'est manifester de l'attention envers l'autre, pas de l'inquiétude. Dans l'Épître aux Philippiens, encore, au chapitre 2, dans les versets 3 et 4, Paul dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Aimer, c'est chercher l'intérêt des autres. Aimer, c'est chercher à connaître les besoins de l'autre pour voir si je peux y répondre. Parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse, de dire « Je t'aime, Dieu prendra soin de toi, et puis débrouille-toi avec Dieu. » Non. Il y a des fois, il y a des choses qu'on peut faire quand même, pour ceux qu'on aime. C'est Jacques qui donne l'exemple hein, dans son épître en disant « Mais si tu dis à quelqu'un que tu vois qui a faim, tu lui dis bah, « Trouve-toi à manger, tu verras, ça ira mieux. » Si la personne a faim, c'est probablement parce que justement, elle a cherché qu'elle ne peut pas. Et si toi, tu as moyen de venir l'aider, ben fais-le. Mets ta foi en action. C'est pas juste, tu vas dire, je vais prier pour toi et Dieu va pourvoir. Peut-être que toi, tu as moyen de pourvoir aussi. Peut-être que c'est toi l'instrument que Dieu a placé pour pourvoir aux besoins de ton frère, de ta sœur. Et aimer, c'est chercher cet équilibre. Chercher ce que moi, je peux faire pour répondre aux besoins de ceux que j'aime. C'est me préoccuper d'eux, m'intéresser à eux, savoir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aiment, ce qui leur apporte du bonheur. Et autant que je peux, je vais essayer d'y répondre. Mais lorsque j'atteins mes limites, c'est aussi accepter de dire « Mais maintenant, ça, je ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui va pouvoir répondre à ces besoins-là. » Jésus a même donné ce conseil, parfois dans les évangiles, vous vous rappelez, de l'épisode avec Marthe et Marie. Qu'est-ce qu'il a dit à Marthe ? C'est dans Luc au chapitre 10, versets 41-42, où Jésus répond à Marthe et lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. » Et Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera point enlevée. Marie, elle avait choisi quoi ? De se mettre au pied de Jésus, de l'écouter. Marthe, elle faisait passer ses inquiétudes en premier, de se dire, mais est-ce que j'ai préparé suffisamment pour tout le monde? Parce que là, aujourd'hui, il est arrivé avec tous les disciples, mais en plus, il y en avait d'autres qui suivaient derrière. Est-ce qu'il faut que je remette un plat de plus au four? Est-ce que j'ai assez de monde pour m'aider à servir tout ça? Voilà, elle voyait tous les problèmes qu'il y avait, et puis elle se laissait gagner par tout ça, parce que plus elle se concentrait sur les problèmes, plus elle voyait que toute seule, elle avait du mal à les gérer. Et du coup, même son inquiétude, elle aurait pu contaminer les autres, puisqu'elle avait, mais Jésus, tu vois que Marie, elle fait rien, là, dis-lui de m'aider, là, il y en a un peu trop à faire, toute seule, je peux plus. Et Jésus est obligé de lui répondre, mais arrête de t'inquiéter. Je suis là, ça suffit. Chloé en a parlé tout à l'heure, quand elle faisait allusion à la multiplication des pains, des poissons. Et les disciples, lorsque Jésus s'est adressé à eux, la première réponse, c'était aussi l'inquiétude. Mais comment on va trouver de quoi acheter suffisamment pour tout ce monde-là? T'imagines même pas. Même avec un an de salaire, c'est pas assez. Et pourtant, Jésus, lui, s'est pas inquiété. La réponse qu'il attendait, c'est simplement de dire, mais toi, Seigneur, tu sais ce qu'il y a à faire. Nous, là, on peut pas. Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Dis-nous comment tu veux répondre à ce besoin-là. Et si on peut aider, tant mieux, mais là, nous, on n'a pas les moyens. Et c'est pour ça que Jésus, parfois, va être obligé de s'adresser à nous comme il s'adressait à Marthe en disant, mais non, arrête de t'inquiéter. Calme-toi. Reviens vers moi, là. Retourne ton regard vers moi. Parce que quand tu regardes tes problèmes, tu vois que les problèmes. Quand tu regardes à moi, tu regardes à celui qui a la solution. Alors, ma conclusion, c'est celle-là, c'est que effectivement, dans le monde, lorsqu'on n'a pas Dieu sur lequel se reposer, c'est difficile de concevoir l'amour sans inquiétude. Je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, lorsqu'elles aiment, ça va aller avec un certain nombre de craintes et de peurs qui vont aller avec, parce qu'elles seront bien obligées de reconnaître qu'elles ont des limitations dans la façon dont elles peuvent aimer. Elles ne pourront pas toujours tout faire, elles ne pourront pas avoir réponse à 100% des problèmes. Mais nous avons une espérance qui dépasse tout ça. Nous espérons en celui qui a toutes choses en son pouvoir. Nous espérons dans celui qui est capable d'agir, même lorsque nous, on ne peut pas. C'est pour ça que Dieu nous appelle à abandonner toute inquiétude. Parce que ce qu'on ne maîtrise pas, ce n'est plus notre responsabilité. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est sa responsabilité à lui. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est de la foi et de la confiance dans la prière. C'est qu'on vienne s'adresser à lui pour lui dire « Mais là, je ne peux plus, Seigneur. Ça, j'ai aucun moyen de répondre à ce besoin-là. J'ai aucun moyen d'apporter une solution. Il n'y a que toi qui peux intervenir. » Et lorsqu'on aime, ça se présente aussi. Parce qu'on a le problème avec nos propres situations, mais on se retrouve confronté aussi aux situations des personnes qu'on aime, qu'on aimerait délivrer de leurs épreuves, qu'on aimerait voir trouver une issue à leurs problèmes. Et cette issue, on ne l'a pas non plus nous-mêmes. Donc on va être obligé d'apporter ces personnes-là à Dieu. Lorsqu'on choisit l'inquiétude, finalement, on choisit d'aimer selon le monde. On choisit d'aimer avec nos propres limitations. Et d'une certaine manière, on refuse la grâce que Dieu nous a communiquée. Lorsqu'on choisit d'aimer, de s'inquiéter pour ce qu'on aime, en fait, on est en train de dire que non, je pense que moi, je peux être suffisant. Je n'ai pas besoin de Dieu, là. Je vais pouvoir trouver quelque chose. Je vais pouvoir trouver une solution. Mais c'est pas la Bible nous dit que non. De toute façon, la vie saura bien nous rappeler nos limites à un moment ou à un autre. Et donc à l'inverse, lorsqu'on aime selon Dieu, là l'inquiétude disparaît. Parce que nous aimons sans rien espérer en retour et que nous attendons au Seigneur pour pallier nos manques, pour pallier nos incapacités. C'est lui qui va répondre à tout ce que nous on peut pas faire. Alors que Dieu nous donne vraiment d'apprendre à aimer en suivant son exemple à lui et en comptant vraiment sur son soutien. Parce que le véritable amour, il vient de lui. Et il n'y a qu'en recevant cet amour de lui qu'on va pouvoir le communiquer et le transmettre. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 7, je vous laisse ce verset en conclusion. C'est Jean qui nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » La seule façon d'aimer avec le véritable amour, c'est si Dieu dépose cet amour en nous, si on reçoit cet amour nous-mêmes de Dieu. Il faut commencer par laisser Dieu nous aimer et nous aider à comprendre ce que c'est que d'être aimé par Dieu pour pouvoir, à notre tour, l'aimer lui, mais aussi aimer les autres autour de nous. Oui, on a besoin de cet amour qui vient de Dieu pour arriver à aimer de la bonne manière, celle qui est délivrée de toute inquiétude. Alors, est-ce que aimer, c'est s'inquiéter ? Pour certains. Mais pour nous, je pense que non. Enfin, je pense que non. Je dis, on n'est pas à l'abri. Hein. Aucun d'entre nous n'est parfait. Je ne vais pas critiquer une personne parce que je l'entends s'inquiéter pour ce qu'elle aime. Au contraire, moi-même j'y suis passé, on y passe tous à un moment ou à un autre, mais Dieu nous rappelle que dans ces moments-là, il y a une solution à cette inquiétude. On n'est pas obligé de s'accrocher à nos inquiétudes, au contraire, il nous demande de, lorsque l'inquiétude apparaît, de venir à lui dans la prière pour déposer ça à ses pieds, et lui aura la solution qui sera la meilleure. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est vrai, toi tu nous as aimés le premier. Te bénissons parce que, à la croix, tu nous as manifesté un amour qui dépasse ce que nous sommes capables de comprendre, Seigneur. Alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous n'avions pas fait le moindre pas vers toi, toi, tu as envoyé ton Fils, tu as sacrifié ton Fils pour nous. Et tu nous as démontré un amour tellement extraordinaire qu'on n'est pas capable de le concevoir. Oui, Seigneur, cet amour, nous voulons apprendre à le connaître, Seigneur. Nous voulons le recevoir de toi et nous voulons apprendre à le manifester à notre tour. Pour ceux qui nous entourent, Seigneur. Oui, déverse ton amour dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions apprendre à aimer comme toi tu aimes, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions aimer de tout notre cœur, aimer avec nos actes, avec nos pensées, mais aussi aimer en sachant que lorsque les situations nous dépassent, Seigneur, toi tu pallies à ce manque, Seigneur. Toi tu viens compléter ce que nous ne pouvons pas faire dans notre amour, Seigneur mon Dieu. Oui, notre amour humain, il sera toujours incomplet, Seigneur, si on ne t'inclut pas dans l'équation, Seigneur. On a besoin de toi pour nous aider à aimer correctement, Seigneur. On a besoin que ton esprit soit en nous pour nous rassurer et nous assurer que tu vas apporter des solutions là où nous n'en sommes pas capables, Seigneur mon Dieu. Oui, aide-nous à ne pas nous accrocher à nos inquiétudes, mais au contraire, à les déposer à tes pieds dans la prière, Seigneur, en sachant que toi, tu entends nos prières et toi, tu y réponds de la meilleure manière qui soit, Seigneur. Oui, Seigneur, si certains ce matin sont assiégés par certaines inquiétudes, par des craintes, des peurs. Je te prie, Seigneur, de les délivrer ce matin, Seigneur. Je te prie d'apporter ta paix dans chacun de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Oui, comme tu l'as promis, que la paix qui dépasse toute intelligence puisse remplir nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Je te prie d'aider chacun d'entre nous ce matin à déposer à tes pieds nos craintes et nos inquiétudes, Seigneur, dans la prière et à te faire confiance, Seigneur, à placer notre foi en toi, Seigneur, pour que tu puisses répondre à chacun de nos besoins, Seigneur, de la meilleure manière qui soit, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.